Et la question qui vous était posée vendredi pour aujourd'hui était la suivante. Israël va-t-il, oui ou non, réussir à désarmer le Hamas? Alors vous êtes extrêmement partagé puisque vous êtes 50% de oui et de non. Donc il n'y a pas de majorité qui se dégage sur Facebook. En revanche, vous êtes 100% à penser que non sur X et 58% à penser que non également sur Insta. Alors mon cher Blaise, nous allons voir avec notre invité s'il partage l'avis de nos auditeurs. Il s'agit du colonel Olivier Rafovitch, colonel de réserve et porte-parole francophone de Tsahal, qui nous fait l'amitié et la gentillesse d'être avec nous ce matin. Je vous laisse en compagnie d'Olivier Rafovitch, Blaise.
Bonjour Olivier Rafovitch.
Bonjour Tov.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors vous l'avez entendu, hein, nos auditeurs sont relativement pessimistes vis-à-vis du fait qu'Israël parvienne à désarmer le Hamas. Est-ce que vous comprenez ce pessimisme ?
Vous savez, nous sommes dans une guerre depuis le 7 octobre 2023, une guerre qui a commencé par une attaque terroriste de la pire espèce, et Israël s'est levé, Israël se bat, s'est battu, et il est hors de question de laisser le Hamas armé et restant une force terroriste et militaire dans la bande de Gaza, c'est hors de question. Maintenant, c'est même pas une question de, je dirais, philosophique ou une question politique, c'est une question vitale pour Israël. Il est hors de question que le Hamas continue à être dans la bande de Gaza une force armée, donc il sera désarmé. La question est de savoir de quelle manière il le sera, mais dans tous les cas de figure, il sera désarmé.
Alors, on sait que l'armée prépare une nouvelle opération à Gaza pour justement désarmer le groupe terroriste par la force. Si les hostilités reprennent, les combats risquent d'être plus intenses, plus étendus que par le passé, car il n'y a plus d'otages sur le sol gazaoui. Olivier Rafovitch, ça peut durer des années, non ?
Encore une fois, on n'est pas ici dans la politique fiction. D'abord, il y a un contexte géopolitique tout à fait différent. D'abord, il y a une implication politique et diplomatique des États-Unis, également ce qu'on appelle le Board of Peace, de pas mal de pays importants qui ont rejoint cette coalition pour changer la situation de la bande de Gaza. Et dans cette situation, dans ce contexte-là, le désarmement du Hamas, la démilitarisation de la bande de Gaza, fait partie à part entière de ce grand plan, qui est quand même un plan qui a été mis en place et qui a été accepté et qui est voulu par les États-Unis d'Amérique. Donc, il y a d'abord du côté de la communauté internationale un soutien général pour que le Hamas cesse d'être une menace militaire, et il y a donc aussi une légitimité à ce que, encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails, à ce que se fasse cette démilitarisation. Soit elle se fait de manière, on va dire, calme, le Hamas accepte de rendre ses armes, le Hamas rentre dans un processus, comme d'autres l'ont fait dans le passé, de groupes terroristes qui ont déposé les armes. Soit ça ne se fait pas de cette manière-là, et donc il y aura d'autres moyens à utiliser.
Et j'aimerais qu'on continue à parler du Conseil de la paix, justement, dont vous avez parlé, Olivier Rafovitch. Est-ce qu'il peut avoir une influence ? On sait que Benjamin Netanyahu et Donald Trump ont insisté pour que le Hamas rende ses armes. Donald Trump a même menacé l'organisation terroriste si ce n'était pas le cas. Cependant, du moins publiquement, le Hamas n'a jamais accepté de déposer ses armes. On sait que le Conseil de la paix va se réunir à Washington le 19 février, dans 3 jours. Est-ce qu'il a un moyen de pression sur le groupe terroriste ?
Encore une fois, le Hamas ne pourra pas continuer, je répète, à être une force terroriste militaire dans la bande de Gaza. C'est hors de question. C'est même partie des enjeux internationaux bien au-delà d'Israël. Les pays qui veulent aujourd'hui rentrer dans la reconstruction savent très bien qu'il est hors de question de penser à reconstruire quoi que ce soit tant que le Hamas est présent. C'est une impossibilité. Et technique, et politique, et diplomatique, et sécuritaire. Les gens ne vont pas investir, ne vont pas commencer à construire, à reconstruire pour les Gazaouis, alors qu'il y a 30 000 hommes armés qui s'opposent à la paix et qui veulent continuer à faire la guerre. Donc dans ce cadre-là, encore une fois, on n'est plus du tout dans le même cadre dans lequel nous étions avant le 7 octobre 2023. un cadre international où les membres qui ont les membres signataires de ce Board of Peace, de ce Conseil de la paix, sous les auspices des États-Unis d'Amérique, comprennent que le Hamas ne sera plus et ne peut plus être dans aucune mesure, dans aucun scénario possible, une force. Maintenant, ce que le Hamas pense ou ne pense pas n'a aucune importance. Vous savez, le Hamas est un groupe de gangsters, un groupe de tueurs, un groupe d'assassins. On les a vus à l'œuvre. Ce qu'ils veulent, c'est continuer à gérer, à contrôler, à voler, et s'ils pouvaient demain à attaquer et à tuer. Donc, tout ça sera mis hors état de nuire. Combien de temps ça va prendre? Et ça prendra le temps que ça prendra. Il est clair que on n'est pas ici avec une montre en main et avec un chronomètre pour vous dire, voilà, ça va prendre tant de temps. Mais je répète, le Hamas ne sera plus jamais une menace pour Israël. C'est-à-dire pour cela que nous sommes encore actuellement dans la bande de Gaza. Nous contrôlons plus de 50% du territoire. Il y a une ligne jaune qui sépare les forces de Tsahal du reste de la bande de Gaza. Nous sommes très clairs par rapport à tout ce qui se passe là-bas. Nous continuons à frapper le Hamas lorsque des terroristes sortent de tunnels. On l'a vu hier matin dans le nord de la bande de Gaza. On l'a vu également il y a quelques jours sortant de tunnels de Rafir. Il y a encore des milliers de membres du Hamas armés partout, dans le nord et dans le sud. Enfin, je parle de la partie qu'ils contrôlent. Et ceci ne pourra pas être une continuation dans le futur. Le temps que ça prendra sera le temps qu'il faut pour que cette bande de Gaza soit enfin démilitarisée et nettoyée du Hamas.
Vous parlez de ces milliers de membres du groupe terroriste. On entend beaucoup de rumeurs, on parle beaucoup autour du sort qui va leur être réservé. On parle même d'amnistie et de passage sûr vers des pays arabes pour les ex-terroristes qui rendent leurs armes. Vous croyez qu'Israël pourrait accepter cela?
Je ne sais pas, encore une fois. Ce sont des éléments de réflexion qui sont certainement discutés à différents niveaux, au niveau politique, diplomatique, en Israël et bien au-delà. Mais je répète, à la fin du compte, le Hamas, ce groupe terroriste de la pire espèce, ne sera plus une force militaire terroriste de la bande de Gaza. La bande de Gaza sera démilitarisée, d'abord pour le bien des Gazaouis. Je crois qu'ils méritent aussi d'avoir une vie sans le Hamas qui les tient en otage. Et si vous permettez, je voudrais également ouvrir une parenthèse. Dans cette guerre-là, on a vu une frénésie anti-israélienne se développer avec un anti-israélianisme, un anti-sionisme, je ne sais pas comment on appelle tout ça, enfin en tout cas des points de vue anti-israéliens terribles, et un silence radio presque total par rapport au Hamas. Comme si Israël se battait juste pour se battre, pour tuer des gens sans vouloir avoir de but précis. Cette guerre, je rappelle, est une guerre qui a débuté par une attaque du Hamas. Et Israël s'est battu et se bat, encore une fois, contre ces groupes terroristes, entre autres le Hamas et le Djihad islamique. Et hier, par exemple, le groupe Médecins sans frontières, qui a été aussi très souvent critique d'Israël, très critique d'Israël, a pour la première fois dit qu'il devait réduire ses activités dans la bande de Gaza, entre autres dans l'hôpital Nasser, parce qu'il y avait une présence d'hommes armés. Il n'a pas dit le mot Hamas. Mais quelque part, même ceux qui étaient critiques d'Israël, au nom de leur activité humanitaire, mais humanitaire, ça ne veut pas dire qu'on est aveugle de voir ce qui se passe autour, eh bien, prennent note maintenant de la présence du Hamas dans des hôpitaux, et on sait que l'hôpital Nasser, entre autres, sert toujours des membres importants du Hamas, des commandements du Hamas, de la bande de Gaza. Donc, tout ça doit s'arrêter. C'est-à-dire que à un moment donné, le monde qui veut aider, qui veut protéger, qui veut soutenir, si je parle un monde qui veut soutenir les Gazaouis, et respectons ceux qui veulent aider leurs proches, leurs frères, leurs amis, les peuples, eh bien, doivent aussi prendre note que ces peuples-là sont sous l'emprise de groupes terroristes qui sont nés dans la bande de Gaza, qui sont des Gazaouis, qui sont armés, qui ont une autre idéologie, celle de combattre, de se battre, d'utiliser l'idéologie islamiste comme drapeau, comme étendard au nom duquel ils vont mettre à feu et à sang à cause de ce qu'ils font la bande de Gaza, parce que cette bande de Gaza, elle est en fait le résultat aujourd'hui de tout ce qui s'est passé à cause du Hamas. Donc, penser aujourd'hui que le Hamas reste dans cette bande de Gaza, que le Hamas puisse rester, est tout à fait, hors jeu, je sais pas comment dire en français, vous m'avez compris.
Oui,
quoi.
Oui. pour conclure, Olivier Rafovitch, alors il y a également énormément de discussions sur la gouvernance de Gaza après le Hamas. Les milices justement anti-Hamas, selon vous, est-ce qu'elles sont assez puissantes? Est-ce qu'elles sont une possibilité pour remplacer le pouvoir du Hamas à Gaza?
Écoutez, encore une fois, nous sommes dans une phase intermédiaire. Une phase intermédiaire qui demande une stabilisation, mais qui ne peut avoir lieu, je répète, seulement et quand le Hamas n'est plus là en tant que force militaire et sécuritaire. Donc tout ce qui peut se passer ensuite à Gaza, le type de gouvernance, le type de système de gouvernance, qui va s'occuper et contrôler la vie des 2 millions de Gazaouis, tout ça dépend de l'après, non pas de l'après guerre, mais de l'après démilitarisation de la bande de Gaza. Et d'ailleurs, je crois que hier ou avant-hier, le président américain Donald Trump a dit clairement que la reconstruction, les milliards de dollars qu'ils veulent investir pour le bien-être des Gazaouis, pour le nouveau de la bande de Gaza, ne peut se faire que après la démilitarisation et la fin de ce régime de mort. Il faut encore le répéter, c'est le Hamas. Le Hamas, avec ses alliés, avec ceux qui l'ont aidé pendant des années, je pense à l'Iran entre autres, qui ont produit ce drame humain, ce drame régional, ce drame terrible qui a provoqué cette guerre et ses résultats. Et Israël, en tant qu'État souverain, en tant qu'État indépendant, qui a le droit aussi de vivre libre et de vivre tranquillement, ne peut se permettre d'avoir un voisin dans le sud qui est gouverné par quelque chose qui ressemble à Daesh. Et vous savez ce qu'était Daesh. Et Daesh et le Hamas, c'est la même chose.
Olivier Rafovitch, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. On vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.
À vous aussi, à très bientôt.